franceinter.fr. France Inter, 7h43, Alain Baraton, bonjour.
Bonjour Patricia, bonjour à tous.
C'est difficile de s'arracher des bras de Ify, le chien d'Eve Plancard, qui était notre invité tout à l'heure à 7h20, Golden Retriever, qui accompagnait sa maîtresse partout où elle va.
Quel toutou admirable, quelle
génial,
bonté dans ce regard, quelle douceur dans ce poil, est merveilleux.
On dirait voilà. Vous.
Oui, mais c'est vrai.
Vous aviez quelque
je
chose
trouve
à nous
beaucoup
dire.
De points communs avec cet animal et j'aime beaucoup les toutous comme celui-ci.
C'est vrai, c'est vrai.
Puis je voulais également rassurer la famille d'Emmanuel Cluny qui oui. travaille, vous savez, Cluny, pardon, qui travaille sur France Info concernant une éventuelle prise de drogue.
Bien aimé. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il avait un cerisier dont voilà. il se demandait s'il était en fleurs ou s'il avait rêvé. Donc dès le mois de novembre,
voilà,
cerisier en fleurs, c'est
donc,
pas vraiment la saison.
Voilà, l'occasion de rappeler, je le disais déjà hier, qu'un cerisier qui les bourgeons des arbres et des cerisiers, comme de tous les autres végétaux, se forment à l'automne et ils vont éclore en quelque sorte au printemps, mais ils sont déjà formés en hiver. Et que quand une plante comme ce cerisier eh bien, se comporte de manière un peu déboussolée, c'est qu'il sent qu'il est en train de partir. Il tente une dernière, j'allais dire, opération de survie. Il pense naïvement d'ailleurs que l'apparition des bourgeons, ou du moins l'éclosion, va lui permettre de réentamer une dernière saison. Il n'en est rien, bien évidemment. Les feuilles sont trop tendres, trop fragiles. Le froid va les tuer. Donc cet arbre, je confirme, malheureusement, est en train de partir doucement.
Voilà, et donc vous présentez vos excuses à notre confrère de France Info, parce que vous avez quand même dit hier que probablement il se droguait.
Je le salue.
Voilà. On parle du caoutchouc,
salue.
Alain.
Avec plaisir.
Le caoutchouc qui est un arbre dans son pays d'origine.
Un arbre de grande dimension qui peut atteindre 40 mètres de hauteur. Le Ficus elastica, plus communément appelé caoutchouc, est originaire du continent asiatique et il se contente sous nos climats d'être ce qu'il convient d'appeler une plante verte.
Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé caoutchouc ?
Quand les Européens prospectent les grandes forêts d'Amérique du Sud, ils découvrent l'Hévéa, un arbre que les populations appellent caoutchouc. Ils l'appellent ainsi car caout signifie bois et chou veut dire pleure. Un caoutchouc est donc un arbre qui pleure, allusion bien sûr au latex qui circule dans le bois.
Mm-hmm.
Il s'avère que le Ficus elastica produit lui aussi du latex et qu'il est donc appelé, comme son cousin d'Amérique, caoutchouc.
L'EVA est donc très exploité pour le latex. Est-ce que c'est aussi le cas de votre ficus ?
Alors le ficus elastica, notre caoutchouc, fut le premier arbre exploité pour l'obtention du caoutchouc en Inde à la fin du 19e siècle. Mais les résultats s'avèrent très décevants. Si l'arbre pousse relativement vite, il faut toutefois attendre près de 25 ans avant de pouvoir l'exploiter. Pour remédier à ce problème, les Anglais introduisent à Ceylan en 1875 des EVA, notre bon vieux caoutchouc, perd sa fonction première dans l'industrie, mais garde son appellation.
Et ces délocalisations ont aussi permis de limiter, j'imagine, la surexploitation de la forêt amazonienne.
Il est vrai que l'exploitation de l'EVA fut telle que certaines variétés sont menacées d'extinction, et c'est un Français, il se nomme Fresneau, qui a eu la bonne idée, dès 1743, pour stopper le massacre, de planter des EVA pour les cultiver.
Et alors de quand date la première usine pour produire du caoutchouc ?
De 1821.
Ouais.
Alors petit rappel, le latex récolté et lavé, réduit en petites particules, puis chauffé à 120 degrés. Le latex devient alors du caoutchouc. En 1836, le procédé est amélioré. On introduit dans le latex du soufre et cela le durcit. Et c'est une société bien connue qui est à l'origine de cette amélioration, c'est Goodyear. Aujourd'hui encore, 70% du latex récolté dans le monde est utilisé par l'industrie des pneumatiques et en particulier pour l'aviation, le génie civil et les poids lourds.
Vous avez fini de faire de la pub tous les matins maintenant ?
Ben non, mais saviez-vous que c'était effectivement Goodyear qui était vraiment à l'origine ? Eh bien non, souvent non. C'est pas de la publicité, c'est de la culture.
Est-ce qu'il est possible de cultiver chez soi un EVA ?
Non, car notre climat ne lui convient absolument pas, contrairement au caoutchouc qui lui accepte de vivre, mais de vivre en appartement.
Justement, parlons du caoutchouc d'Ernestine. Figurez-vous que le sien a atteint le plafond. Peut-elle couper la tige et si oui, à quelle hauteur ?
Il faudrait même faire en sorte qu'il n'atteigne pas le plafond. Chacun, c'est une question de goût.
Évidemment, chez vous à Versailles, les plafonds sont tellement hauts qu'avant que ça atteigne le plafond,
c'est
ça
exact.
Met du temps.
Moi, je vis dans un appartement, le plafond,
voilà,
c'est
y a des gens qui vivent dans des
8,50 m,
vous savez,
effectivement.
Des mansardes, des choses comme ça.
Oui.
Non, mais c'est moins haut que chez
oui,
vous.
Oui, mais même si votre plafond fait 8 mètres, c'est jamais très beau ces caoutchoucs qui n'ont qu'une seule tige avec des grosses feuilles généralement qui se recouvrent de poussière, c'est pas très élégant. D'où l'idée de pincer la tige de la plante quand elle fait 1,50 m, 2 m. C'est quoi pincer? C'est tout simplement couper juste au-dessus d'un bourgeon, eh bien, la tige principale. Cela favorise la ramification de la plante et donne au caoutchouc l'aspect d'un petit arbre plutôt qu'une tige. Donc, pour répondre à l'auditrice, oui, il est parfaitement possible de couper la tige qui est en train de toucher le plafond. Mieux, cela va favoriser le départ des branches latérales et donner à la plante un petit aspect davantage buissonnant. Ai-je été clair?
Parfaitement clair. De toute façon, maintenant, je ne vous fais plus aucune réflexion, sinon on va se faire encore gronder par les auditeurs.
Non, vous allez vous faire gronder.
Paul Emmanuel. Vous pose une question, question. Les fruits de l'oranger des osages,
Oui, tout à fait.
Sont-ils comestibles?
Eh bien non, l'oranger des osages n'est pas du tout... n'est pas du tout... ne fait pas partie de la famille des agrumes. C'est une plante qui vit dans la forêt amazonienne. Et s'il s'appelle l'oranger des osages, c'est qu'il produit un fruit à peu près semblable à une orange. Un fruit non comestible, extrêmement dur. Il est vert. Remarquez, il est très joli. C'est un fruit qui est vraiment très décoratif. Et pour la petite anecdote, les osages, je crois que c'est le nom de la tribu des Indiens qui vit dans cette partie de la forêt. D'accord. Mais pour répondre donc, non, le fruit n'est pas comestible.
Juliette aimerait bouturer un pied de crassula. Comment faire?
Écoutez, alors là, même vous devez y arriver. Je vous explique en deux mots.
C'est sympa, ça.
Vous prenez un pot... Oui. Je vais vous expliquer, c'est simple. Vous prenez un pot que vous remplissez de terreau. Vous me suivez?
Je vous suis.
Vous prenez une petite feuille de crassula. Vous me suivez toujours?
Oui.
Vous posez la feuille sur le terreau.
Et c'est parti.
Vous arrosez, c'est parti.
D'accord. Et ça ressemble à quoi, un crassula?
Ah bah si, c'est une plante magnifique qui a des feuilles, qui est une plante dite succulente, qui a des petites feuilles extrêmement coriaces et épaisses, qui fleurit blanc au printemps. La floraison est discrète, mais il donne surtout l'apparence de cette plante verte, peut-être un bonsaï. Il y a un petit côté arbre qui rend cette plante assez belle.
Pierre Veille, opine du chef. Je ne sais pas si c'est parce qu'il en a un ou parce qu'il comprend ce que vous dites.
Moi-même bouturé, incapable.
C'est vrai,
bouturé.
Si le crassula, la pierre peut le faire.
François-Régis Gaudry, vous savez bouturer, vous?
À peine.
Cerise a acheté un gros érable en motte. Faut-il couper le grillage qui retient la terre?
Oui, pour éviter justement l'étranglement des racines. Parce que la plante va se développer rapidement. Le grillage qui permet la constitution des mottes en pépinière est supposé se dégrader rapidement dans la terre. Mais de temps en temps, ça ne se dégrade pas aussi facilement. Donc je conseille effectivement avec une pince, tout simplement de provoquer des ouvertures et favoriser ainsi la dispersion et la croissance des racines sans entrave.
Oui, c'est ça, mais il faut tout est une question de mesure. Il faut pas le faire trop, faut pas trop.
Non, mais par contre, il faut le faire une fois que la plante est installée dans la fosse.
Ouais,
attention, s'il y a du grillage, c'est pour éviter justement que la terre ne se disperse. Je vous rappelle qu'une racine qui se retrouve en contact direct avec l'air va sécher, qu'elle va perdre sa fonction d'absorption.
Ah oui, on va dire comme ça, absorbante, sa fonction absorbante.
Tout à fait. Donc, il faut attendre que la plante soit vraiment installée et on retire délicatement le grillage pour éviter que la motte ne s'effrite. Et oui, le jardinage est une discipline qui demande de la rigueur, du savoir-faire et parfois même de la patience.
Et toc, faut-il vraiment tailler les arbres pour qu'ils donnent de nombreux fruits? Voudrait savoir Justine.
Ah, je me pose des questions. Vous prenez dans la campagne, vous trouvez une maison abandonnée, il y a au milieu de la pelouse un pommier, le pommier n'a pas vu un homme depuis 40 ans, il est couvert de fruits. On connaît tous, on parlait tout à l'heure du cerisier de notre collègue de France Info. Eh bien, vous avez des cerisiers qui vont donner quantité de fruits et l'année suivante, ils meurent. C'est peut-être le champ du cygne avant de partir et dans le paradis, parce que je crois qu'il y a un paradis pour les...
Il y a un paradis, vous croyez, pour les arbres? Pour les plantes?
Pourquoi n'y en aurait-il pas? Eh bien, je pense que le fruitier se hâte de fleurir. Et c'est vrai que la taille a été mise en place pour permettre aux fruits d'être récoltés à hauteur d'homme. Monsieur Lacantini, qui a mis cette technique en place, avait conscience qu'une prune qui tombe de 10 mètres de haut s'explose sur le sol, alors que si on est capable, par exemple, de tailler un pommier, il suffit de tendre la main. Donc, je ne suis pas toujours convaincu qu'une taille est bonne pour la production des fruits. Ce que je sais, c'est que ne pas savoir tailler est encore pire.
Est-ce que vous auriez par hasard un conseil de lecture à nous donner?
Oui, Glénat Livre présente Mon jardin et ma maison. Ça s'appelle Jardin d'inspiration. C'est dans une très belle collection. 30 €, 208 pages. Que des jardins de qualité, c'est superbe.
Merci Alain Baraton, 7h52, la COP13, vous savez, sur la biodiversité se tient à Cancun, au Mexique, enfin ça commence à peine. Alain Bougrain-Dubourg a pris l'avion hier pour y participer. Nous avons donc enregistré sa chronique juste avant qu'il ne parte hier matin, c'est ce qui explique son absence.
Et
vous
le
avez
calme.
Compris? Oui, le calme.